Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Daniel Riolo est là, Stéphane Guy est là, et bien sûr en direct ici de Doha, nos invités Benjamin et Richard ce soir, supporters des Bleus, et Georges Quirino qui est de retour à Buenos Aires. Georges, est-ce que tu nous entends? Ah bon, il arrive, bon, on va rétablir,
il est resté dans le bar. Liaison.
Juste, alors, rentrons un peu dans les individus, là. Donc, Messi, on a dit qu'effectivement, on a un bon Messi depuis le début de la Coupe du Monde. Mais il faut un peu se pencher sur ceux qui l'entourent. Ouais. Là, bon, Di Maria devrait revenir. On a entendu Florent Germain. Ça a l'air plutôt en bonne voie.
Alors moi, je ne sais pas si c'est une super bonne chose. Il va falloir qu'il me montre autre chose, Di Maria, pour que je sois convaincu. Parce que, alors, si ce n'est pas Pou Gomez, bon, mais il y a peut-être d'autres solutions. Je sais pas, mais c'est pas lui dont j'attends beaucoup de choses en ce moment, parce que je vois un Alvarez qui pète le feu, Enzo Fernandez au milieu, Acuña sur le côté. Je vois pas mal de bons joueurs en ce moment en Argentine.
Tu dis que l'Argentine peut se passer de Di Maria.
Bah, sur ce que j'ai vu quand il était sur le terrain, ou alors il faut qu'on retrouve un mec avec des jambes qu'on n'a pas vu chez lui depuis longtemps, parce qu'évidemment on sait qu'il a beaucoup de talent, mais bon là.
Georges est de retour. Georges,
un peu plus au calme.
Ah, effectivement, t'es sorti des locaux dès le football.
Ouais. Je suis dans un endroit un petit peu plus. Je vous écoutais parler de Di Maria. En fait, le problème, oui, c'est qu'il n'a pas de remplaçant naturel dans l'équipe de Scaloni, parce que avant c'était Nico Gonzalez, l'ailier de la Fiorentina, qui est parti blessé. Et donc du coup, en fait, il bricole un peu Scaloni. Et avant ce match, par exemple, il a hésité à jouer avec Julen Alvarez sur un côté et Lautaro en neuf. Ou à faire jouer Joaquín Correa de l'Atlético de Madrid. Et au final, il a opté pour Papu Gómez. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une option évidente. On sait qu'il ne voit pas Dybala, par exemple, dans ce poste-là, a priori, Scaloni. Donc,
Parce qu'il faut trop courir sur le côté. Dybala, il ne court pas des lattes. Mais et jamais ils ont pensé à un 4-4-2 où on mettrait Alvarez et Messi devant. Et De Paul, Enzo Fernandez dans les deux milieux de terrain, et sur les côtés, McAllister avec un autre mec sur le côté.
Et mais toute la problématique, c'est de trouver cet autre mec, en fait, justement, Daniel. Parce que ça ressemble un peu finalement à ce que veut proposer Scaloni, mais le problème, c'est que ce garçon à droite, il l'a pas. Il a des jeunes, il a Thiago Almada, par exemple, mais qui est très jeune, qui joue à Atlanta aux États-Unis, qui est l'une des pépites de Vélez Sarsfield, mais très jeune, un peu trop, pas prêt pour ce niveau-là. Donc, il lui manque très clairement une option. Donc, c'est pour
Correa,
ça que je pense que c'est Di Maria.
Le Correa, tu dis qu'il est trop central pour jouer dans le 4-4-2 comme ça.
Mais Correa, en plus, Daniel, il est arrivé dans cette équipe, il n'était même pas prévu qu'il soit dans les 26, ouais. Il est venu uniquement parce qu'il y a eu des blessés. Ouais. Donc je pense que si Di Maria est à même 90% ou 95%, il jouera le match face aux Pays-Bas. Ils ont un peu plus de récupération cette fois-ci, donc je pense qu'il y a plus de chances qu'il y soit. Mais au final, il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour Scaloni à ce poste-là, sauf s'il décide de mettre Julen Alvarez sur un côté, ce qu'il fait par exemple à City parfois, et ce qu'il a fait à River Plate avant. Donc il sait le faire.
Oui, dans ce cas-là, c'est Alvarez qui ferait l'homme que je cherchais, et Lautaro retrouverait une place à côté de Messi devant, dans un 4-4-2.
Si Lautaro retrouve sa tête.
Avec McAllister d'un côté, Alvarez d'un côté. Franchement, ça pourrait avoir de l'allure.
Si Lautaro Martinez retrouve sa tête, parce qu'on l'a vu aujourd'hui. Ouais, il est au fond du sac. Je pense qu'il s'est jamais remis de son vrai faux hors-jeu du premier match face à l'Arabie Saoudite. Il a été sorti et après là, on l'a vu rater les trucs immanquables qui habituellement, il avait justement cet instinct de tueur avec Scaloni. Donc il faut voir. Peut-être que Scaloni aussi va avoir en tête de lui redonner de la confiance. Il en a parlé avant ce match-là qu'il avait confiance en Lautaro, mais bon. Il va falloir voir. Je pense que la réussite de l'Argentine viendra de là aussi, hein, si Lautaro Martinez arrive à aller mieux.
Parle-nous un peu de McAllister, là, parce qu'il y a quand même des joueurs qu'on ne suit pas évidemment partout, tout le temps. Et McAllister, donc il joue au Brésil, hein, c'est ça?
Non, pas du tout.
J'ai confondu avec un autre celui-là alors.
Et il joue dans une équipe qui joue pas mal.
Moi personnellement, j'ai pas vu Brighton. Stéphane, toi tu suis peut-être plus Brighton que moi, mais.
oui. C'est une équipe qui pratique un très bon football et c'est un joueur très polyvalent, surtout parce que. Tu parlais il pourrait jouer à droite aussi, McAllister. C'est un joueur qui peut à peu près. Enfin, Brighton, en tout cas, je l'ai vu jouer à plusieurs postes différents.
Ouais, mais il a même un peu joué à gauche là, hein, sur ce match-là. Effectivement, c'est un joueur polyvalent. D'ailleurs, à Brighton, Stéphane, il joue plutôt devant la défense avec Moises Caicedo, ouais, l'équatorien, dans un rôle mais presque
Brighton,
de
Brighton a une exception. Je peux faire, juste parce qu'on parle de foot, j'en parle. C'est du temps en tous les cas où Potter l'entraînait encore en début de saison. Maintenant, c'est De Zerbi qui est là-bas. Mais Potter avait réussi à constituer une équipe. Ça va vous plaire, ça, où il y avait deux joueurs défensifs sur le 11 et un gardien. Tous les autres joueurs. Leandro Trossard, qu'on a vu avec la Belgique, jouait latéral. Tous les joueurs, y compris au poste défensif, tu as McAllister, joue milieu défensif, étaient des joueurs quand même à vocation offensive. Et ça marchait.
Et au final, pour quel résultat?
Ils ont fait une très bonne saison l'année dernière.
C'était une équipe qui était
dixième, autour de la dixième place en Angleterre, qui a tapé des gros.
Hein. Ouais, c'était une équipe dont tout le monde vantait le jeu.
Et d'ailleurs, pour l'instant, on ne trouve pas la touch à Chelsea, mais c'était très étonnant de voir comment il procédait.
Mais McAllister, c'est un joueur qui s'est formé à Argentinos Juniors, le club où a débuté Maradona, qui ensuite a joué à Boca Juniors. Donc il a réussi même à s'imposer à Boca. On sait que les joueurs qui s'imposent à Boca, déjà ça montre quelque chose au minimum au niveau du caractère. Et après il est parti à Brighton. On sait que De Zerbi l'aime beaucoup, justement parce qu'il est très polyvalent, comme tu disais Stéphane. Et au final c'est la clé de Scaloni pour remplacer Lo Celso, parce qu'il n'avait pas ce joueur pour remplacer Lo Celso. On sait qu'il hésite avec Papu Gomez au début, il l'avait mis sur le premier match d'ailleurs. Et là il a ce joueur là, un peu technique aussi, avec qui on sent que Messi s'entend bien. Donc McAllister, c'est l'une des bonnes trouvailles. Il n'était pas à la dernière Copa América, il faisait partie du gros groupe de Scaloni, donc ça fait un petit moment qu'il est dans le groupe déjà, mais on ne l'imaginait pas titulaire, ça c'est une certitude pour ce mondial. C'est une des bonnes
surprises. Papu Gomez, il est décevant quand même, non, Georges? Je trouve que je me souviens de lui à l'Atalanta où
il est un peu fini,
où il faisait rêver presque, il y avait un côté magique dans ce joueur.
Joueur. Ah oui.
Et là, on a rien vu ce soir encore.
Ouais, mais Stéphane, en fait, le truc c'est que comme tu dis, alors, je pense qu'on les met tous à l'Atalanta, Papu Gomez.
Ouais.
Et aujourd'hui, il a
un jeu hyper huilé, l'Atalanta à l'époque.
Exactement.
Il était fort.
Ouais, et aujourd'hui à Séville, il a même pas énormément de temps de jeu. Hein. Il a une dizaine de matchs. Je sais qu'il a un peu plus joué avec Sampaoli depuis qu'il est arrivé à Séville. Et on a l'impression que c'est plus à chaque fois un joueur de complément qui rend des services à gauche, à droite, parfois même en numéro 10, en soutien.
Ce soir, on
sait jamais quel est vraiment son poste,
Papu Gomez. De loin.
Ouais, il est dans le coup. Il est dans le coup. Et même, franchement, Daniel, sur le premier match, vous entendez, il y a des gamines en train de crier derrière moi avec le maillot de l'Argentine, parce que je suis toujours dans la rue. Sur le premier match, c'est même l'une des rares satisfactions, moi j'avais trouvé sur la première mi-temps face à l'Arabie Saoudite, l'un des joueurs qui avait levé la tête. Donc après, je pense pas que Scaloni l'imagine dans le 11 titulaire si Di Maria revient. À mon avis, pas beaucoup.
Donc là, tu dis si Di Maria revient, il est titulaire quoi qu'il arrive. Parce qu'on se posait la question.
Ouais, ouais, je pense.
Et moi, je sais pas pourquoi j'ai mis McAllister au Brésil, je cherche encore. J'ai confondu avec un autre.
Il donne beaucoup de largeur à l'équipe, moi, je trouve, Di Maria. C'est vrai qu'il est plus fulgurant, on le voit pas partir dans ses dribbles enflammés. Mais par contre, il élargit bien le bloc adverse.
Il rate souvent les passes.
Oui, c'est moins bon. C'est moins bon.
Et il le rate, c'est sûr. Alors, il peut refaire un problème. Match, j'espère, mais bon.
Dis-moi, Georges, avant de te laisser, il y a un petit sujet qu'on n'a pas abordé dans l'after. Scaloni, lors de la phase de poule, a fait une sortie en disant ouais, mais de toute façon, il y a trop d'émotions là. Moi, j'ai eu mon propre frangin qui va pleurer dehors après les matchs et tout. Faut se calmer. On a vu les Uruguayens hier. On en a parlé un peu dans l'after hier. Les Brésiliens, ils chialent avant les matchs, pendant les matchs, après les matchs. Hier, c'était les Uruguayens. Je sais, qu'est-ce qu'on en dit en Argentine de tout ça là? Je sais pas, c'est une spécificité chez l'américaine maintenant, cette surémotion. Et est-ce que ça peut être un problème ou pas?
Même les Allemands pleurent, alors c'est te dire.
Non, la surémotion, c'est quand même très argentin. Alors après, c'est vrai que Scaloni, justement, depuis qu'il est à ce poste-là, il a toujours eu le discours de dire il faut qu'on arrive un peu à sortir de cette idiosyncrasie argentine, de toujours s'enflammer, toujours justement pleurer pendant les matchs, se laisser aller. Et on a vu que même lui s'est laissé aller finalement contre le Mexique. Donc il est un peu allé contre son discours. Lui veut justement que tout le pays descende un peu. Donc il n'était pas trop content, par exemple, quand il a vu Aymar à côté de lui, presque au bord de l'infarctus, après le but de Messi contre le Mexique. Mais oui, ça fait partie des débats dans la presse, pas forcément chez les analystes, parce que c'est des anciens joueurs qui aussi vivaient tout ça à bloc, mais oui, sur la gestion des émotions de cette équipe dans les moments difficiles. Mais moi, je trouve que jusqu'à maintenant, justement, dans les moments difficiles, ils ont su réagir,
à part le
premier match, mais il y a eu de la réaction, et c'est peut-être ça. Peut-être que dans le jeu, elle n'est pas incroyable, cette équipe. Moi, je vous l'avais dit avant la Coupe du Monde, hein, dans le jeu, elle n'est pas dingue, cette équipe, mais c'est un collectif, c'est une équipe ensemble, avec un caractère, et qui, pour ça, sera dur à sortir, je pense.
Bah, tu sais, en 2014, elle est allée en finale sans faire lever les foules. Hein.
Ouais, bien sûr. Ils passent notamment en demi-finale contre les Pays-Bas au tir au but. Ouais. Et d'ailleurs, ils auront ça en tête, les Argentins, parce que pour eux, Argentine-Pays-Bas, c'est un classico.
Pour moi, clairement. C'est le vrai test maintenant pour eux. Donc, il faudra, comme disait Platini, la Coupe du Monde, c'est 3 matchs. Bon, ben voilà, pour eux, il va commencer. Le premier des 3, il est là. Et s'ils battent les Pays-Bas, pour moi, ils sont vraiment gros candidats. Je pense que là, vraiment sérieusement, on pourra dire qu'ils peuvent aller au bout.
Argentine-Pays-Bas, c'est l'histoire de la Coupe du Monde.
Ça va être un vrai test, vrai gros test pour eux, vraiment.
98, 2014.
98, mais à chaque fois, en plus, c'est des drames.
Et 78.
Et la finale 78, quand même.
78,
la finale 78. 98, c'est le carton rouge d'Ortega à la dernière minute et juste derrière le but de Bergkamp. Donc, Ortega, c'était Ginola ici. C'était Ginola ici pour les commentateurs argentins. Ils se sont retrouvés au Brésil en demi-finale.
Ortega, oui, pardon, faut se rappeler du but hollandais hein, qui est un des plus beaux de la Coupe du Monde 98. Je pense que tu peux mettre tous les Ginola que tu veux.
Oui, mais bien sûr, mais en fait, Ortega simule un pénalty. L'arbitre vient lui dire qu'il y a carton jaune, il s'énerve, il met un coup de tête à Van der Sar. Et derrière, il est expulsé. Et derrière, il y a le but de Bergkamp. Donc, il y a eu tout ce moment-là en Argentine où justement, on en a voulu à Ortega de ne pas avoir tenu ses nerfs, alors qu'en 98, ils avaient une génération incroyable, les Argentins. Donc, derrière, il y a un but de dingue, mais il y a une grosse histoire de rivalité ici et de respect aussi avec les Néerlandais.
Bon, ça veut dire qu'ils mènent 2-1 aux confrontations en Coupe du Monde. Alors, il n'y en a pas eu d'autres dans celle qu'on a.
Si, en poule,
il y a eu
un vieux match moisi en poule.
74, ils perdent contre l'équipe de Cruyff.
Non, mais là, récemment, il y a une Coupe du Monde, ils sont en poule ensemble.
C'était en Allemagne, peut-être en 2006.
Avec un 0-0, un truc comme ça, un match un peu moisi. Ouais.
Georges, ouais. Merci.
Merci à vous.
Bonne soirée chez les locaux d'El Football.
Ouais. Bon, ils sont tous locaux pour le football ici, donc je suis bien entouré.
Salut Georges, à plus.
Ciao les gars.
Un point rugby, Stade Français, La Rochelle, Arnaud.
15 minutes encore à jouer dans cette partie, la deuxième journée de Top 14, et c'est le Stade Français qui continue de mener 6 points d'avance, 20-14, 3 essais inscrits pour un seul essai Rochelet.
Dans quelques instants, les Pays-Bas, Johan Crochet va nous rejoindre, et ensuite l'équipe de France, l'After est là jusqu'à 1h du matin, comme tous les soirs, bien sûr. À tout de suite en direct du Qatar.